la dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Et c'est une suite de cette émission spéciale Irak. Alors pourquoi une spéciale Irak? D'abord parce qu'on n'en parle pas assez de l'Irak en France, et puis ensuite parce que l'occasion nous a été donnée par un roman dont nous avons parlé en première partie en compagnie de son auteur, qui est resté d'ailleurs avec nous, mais qui passe comme spectatrice dans cette deuxième partie, puisque la deuxième occasion, c'est la sortie demain en salle d'un film, fleuve de 5h34, je crois, pour être précis, et un film monumental. Alors on hésite toujours à parler de chef-d'œuvre, même quand on est face à un véritable chef-d'œuvre. Eh bien aujourd'hui, je vais le dire, c'est rare, suffisamment rare, donc le mot est précieux, mais je le pèse aujourd'hui. Et nous sommes en compagnie de son cinéaste, de son réalisateur, Abbas Fadel. Bonjour.
Bonjour.
Ce film s'intitule Homeland, Irak, année zéro. Pendant un an et demi, vous avez entre 2002, disons fin 2002 et mi-2003, juste après l'invasion américaine, filmé des Irakiens, essentiellement des membres de votre famille, des proches, mais pas seulement. On voit aussi des Irakiens de la rue. Vous les avez filmés dans leur vie quotidienne, donc avant et après la chute de Saddam Hussein et l'invasion américaine. Ce film, vous l'avez d'ailleurs coupé en deux parties, avant la chute, après la bataille. Deux parties de 2h30, 3h chacune. Vous filmez tout, Abbas Fadel, les gens, les maisons, les rues, les souks, les gestes du quotidien. Dans la première partie, on voit la ville de Bagdad, on voit les souks de Bagdad, on voit la nourriture qu'on trouve dans les souks, on voit tous les gens de près, on les entend parler comme un long travelling de 2h30, 3h dans la première partie, puis dans la deuxième partie, mais c'est la même ville mais avec un visage tout à fait différent. C'est vraiment un sentiment d'avant après. Vous vouliez vraiment, par votre caméra, garder un peu de ce monde disparu et puis laisser une trace de ce monde d'après.
Absolument. Moi, j'avais une vision vraiment apocalyptique de la nouvelle guerre qui s'annonçait et qui pouvait se déclarer à tout moment. Moi, je vivais à l'époque en France et j'ai décidé de rentrer parce qu'à la fois pour être avec ma famille et aussi pour documenter tout ce qui allait disparaître. C'est-à-dire le pays que j'ai connu, mes amis, les lieux de mon enfance, mais vraiment tout comme vous dites, parce que on parlait des armes de destruction massive. Donc si vraiment l'Irak les avait et si Saddam les utilisait, quelle aurait été la réaction des Américains? Ils auraient rayé l'Irak de la carte. Ils n'ont pas hésité à lancer deux bombes atomiques sur le Japon qui n'avait pas utilisé des armes de destruction massive. Donc imaginez que c'est vraiment l'Irak, comme ils ont prétendu, avec ces armes qu'ils les utilisent. Donc vraiment, j'imaginais l'Irak en train de disparaître. Enfin, comme Bagdad, c'est le nouveau Hiroshima, Babylone. Et il a fallu que j'aille là-bas, d'abord pour partager le destin de ma famille. Parce que j'ai pas pu être avec eux pendant la première guerre de Golfe. J'étais à Paris, à l'hôpital, parce que ma fille était en train de naître. C'est-à-dire la première guerre de Golfe, pendant que les premières bombes tombaient sur Bagdad, ma fille était en train de naître à Bagdad. Ce qui fait que l'anniversaire de ma fille, c'est l'anniversaire de la guerre, donc c'est très particulier. Mais cette fois, pour la nouvelle guerre, j'ai décidé de retourner en Irak et pour être avec ma famille et aussi pour documenter. Parce qu'on s'est posé la question en tant qu'Irakien et réalisateur, qu'est-ce que je peux faire? Et la seule chose que je pouvais faire, c'est documenter.
C'est pas le premier film, cela dit, Abbas Fadel, que vous faites. Puisque vous parliez de Babylone, vous aviez déjà fait un film entre 2002 et 2004. Vous avez réalisé deux films, Retour à Babylone et Nous, les Irakiens. Quelle est la place pour vous de ce Homeland aujourd'hui par rapport au précédent?
Alors, Homeland, c'est un peu c'est une réaction aux deux premiers. Alors, les deux premiers films, c'était des commandes de France Télévisions. Donc des produits formatés, j'en suis fier et je les revendique, mais en même temps j'étais frustré. C'était 52 minutes avec un commentaire qui raconte tout, alors que moi je fais confiance à l'intelligence du spectateur. Et on m'avait interdit des plans séquences, des plans de silence. Je les revendique, enfin, j'en suis fier, mais en même temps j'étais frustré. Et c'est pour ça ce film, je l'ai produit tout seul. Parce que j'ai commencé par en parler aux producteurs de mes premiers films. Mais quand ils ont annoncé que le film va faire plus de 5 heures, ils m'ont dit non, c'est pas possible parce qu'on ne trouvera pas de partenaire à la télé. Les salles ne l'accepteraient pas. Et c'est pour ça que j'ai passé 3 ans à le faire tout seul. Mais vraiment, j'ai assuré tous les postes. Et parce que je me suis dit, si je le fais pas moi, personne ne le fera. Et j'avais pas envie vraiment pour ce film-là de faire des compromis.
Ilham Kashashi, vous avez vu ce film?
Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que Abbas Fadel a fait un travail remarquable En fin de compte, on fait la même chose, de garder, de documenter l'Irak qui est en train de disparaître. Lui, il fait ça avec des images, moi je fais avec des mots. Et il y a certaines séquences que j'aurais vraiment aimé que ça passe dans les journaux télévisés. Par exemple, là on voit tous les archives des films irakiens, les costumes de théâtre historique qui étaient brûlés, détruits aux cendres. Et l'autre séquence, des enfants qui jouent avec des vraies mitraillettes, ce qui m'a choqué vraiment. Et aussi un enfant qui est en train de visiter le musée de folklore ancienne. Et il regarde les différents métiers, les gens. Il dit, oh là là, il vivait de vie paisible. Et pourtant, il n'y avait pas de pétrole, mais il était content. Ça m'a beaucoup touchée. Et surtout cette dame avec le portrait de son enfant tué, un martyr. Mais combien de photos comme ça on a en Irak? Des centaines de milliers de femmes avec les mêmes photos encadrées avec de glace et en train de pleurer et d'essayer d'être digne devant un caméra. C'est un film remarquable.
Un film remarquable qui touche beaucoup, dit Inam Kachachi à Abbas Fadel. C'est vrai qu'on a le sentiment, en regardant ce film, que vous donnez plus qu'un visage aux Irakiens qu'on ne voit pas, d'ailleurs, nous, ici en France. Quand on a vu ce film, on a vraiment l'impression de connaître l'Irak comme si on y avait vécu un ou deux ans. C'est un sentiment très rare, très étonnant, pas seulement parce que le film dure 5h34, je tiens à dire qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, ce qui est quand même une gageure, bravo, mais aussi parce que vraiment vous nous montrez toutes ces personnes vivant au quotidien avec des moments de joie, avec des moments de crainte. Alors c'est vraiment deux temps différents. Peut-être il faut que vous nous disiez un mot sur la façon dont vous l'avez construit. Et puis ensuite on va parler de l'Irak et de ce qu'on y voit. Mais il y a une chronique de l'attente puisqu'on est juste avant la guerre quand vous filmez cette première partie. On les voit, les membres de votre famille, se préparer à une guerre que pour les plus vieux d'entre eux, ils connaissent déjà, donc ils savent ce qu'il faut faire. Et puis dans la deuxième partie, mais c'est la chronique du cauchemar.
Ouais. En fait, le film s'est inventé au fur et à mesure. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à filmer, tout peut arriver. Et le film pouvait s'arrêter le lendemain, en fait. Ma famille pouvait refuser d'être filmée, ou une bombe pour tomber sur la maison. Moi, je pouvais être arrêté sur cette dame, ou tué après, parce que c'était dangereux de se balader avec une caméra, avant et après. Mais heureusement, j'ai pu filmer plus ou moins tranquillement. Enfin, pas tranquillement, mais j'ai pu filmer pendant un an et demi. Et c'est le film, il est au montage. C'est une fois que j'ai vu les 25, j'avais 120 heures de rush. C'est en les voyant que j'ai vu le film. À la fois, les deux parties se sont imposées, parce qu'il y a l'invasion américain marque une telle rupture sur tous les plans que la division de film en deux parties, l'avant et l'après, s'est imposée naturellement.
Vous parliez des dangers quand vous filmiez avec votre caméra, d'ailleurs avant et après, on le voit différemment dans les deux parties. Avant, c'est aussi les dangers de parler de Saddam Hussein. En fait, dans la première partie, il est peu question de Saddam. Il est peu question en mots de Saddam. Il est beaucoup question de Saddam Hussein en images. On voit beaucoup votre famille devant ces images de propagande diffusées à la télévision, à la gloire du père, de la nation, le sauveur, etc. Mais on ne sait rien de ce que pensent de Saddam Hussein les membres de votre famille. C'était impossible.
C'était impossible. On ne pouvait pas. Déjà, c'était interdit de filmer. J'aurais dû, en fait, prendre une autorisation du ministère de l'Information qui m'aurait imposé un accompagnateur qui aurait choisi les lieux, les personnes qui filmaient. Et ça aurait donné un film qui ressemble à ce qu'on voyait de l'Irak. Moi, je ne voulais pas faire ça. Donc, j'ai filmé sans autorisation. C'est pour ça que j'ai filmé beaucoup à l'intérieur de la maison. Et là, il n'était pas question de filmer ma famille en train de se prononcer sur le régime, enfin de dire ce qu'il pensait de Saddam. Mais par contre, dans la deuxième partie, une fois le régime tombé, la parole se libère. Alors les gens s'expriment à la fois sur ce que c'était la vie sous Saddam, mais aussi sur la vie au présent sous l'occupation américaine.
Inam Kachachi.
Oui, ça m'a attiré l'attention, toutes ces jeunes filles voilées. Parce que j'imagine qu'Abbas Fadl, en rentrant à Bagdad, il était surpris, lui aussi, de voir ses sœurs, ses nièces, ses cousines, les voisines, de très jeune âge, sont avec un foulard sur la tête. Ce qui n'était pas le cas quand on a quitté l'Irak. Maintenant, c'est imaginable.
Vous avez quitté l'Irak quand?
J'ai quitté l'Irak fin des années 70, mais j'ai gardé les contacts, j'ai fait l'aller-retour pendant toutes ces années.
Donc, ce n'était pas le cas il y a 40 ans?
Pas du tout. Et surtout à l'université, quand j'étais à l'université de Bagdad, il y avait des étudiantes qui portent le abaya, c'est une sorte de cape noire, longue, mais ça couvre pas tout à fait le cheveu et ça reste ouverte. Une fois à la porte de l'université, et l'autre le abaya, elle le met dans un petit sac, et elle entre la tête nue à l'université. Et dans le film, quand on voit ces filles, quatre filles qui cherchent un avenir, à rencontrer l'amour, à trouver un mari, et qu'ils disent, même si une seule trouve quelqu'un, ça va ouvrir la porte aux autres.
Ça ouvre la voie, elle dit.
C'est un gros problème en Irak maintenant, toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes qui trouvent pas des maris, parce que tous ces hommes qui ont été tués dans la guerre, c'est un gros problème social en Irak.
Alors, ce que dit Naam, c'est très juste. Moi, quand j'ai quitté l'Irak, mes sœurs portaient le mini-jupe. Et donc, je rentre pour filmer ce que vous avez vu dans Homeland, et leur fille porte le voile. Alors, ça ne veut pas dire que ma famille ou l'Irak est devenue plus religieux, mais c'est l'un des résultats des années de l'embargo. L'embargo, c'était une telle violence sociale que, notamment les filles, pour se protéger, c'est plutôt les mères qui forcent leurs filles à porter le voile pour les protéger. Elles pensent qu'une fille qui porte le voile a moins de risque moins d'être harcelée, d'être agressée ou d'être enlevée. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ma famille n'est pas devenue plus religieuse parce que maintenant les filles portent le voile.
Oui, Nafkashi.
Oui, moi je ne suis pas musulmane, mais quand je vais à Bagdad pour aller au centre-ville et balader dans les souks, je porte la voile pour être calme, comme il dit Abbas, pour ne pas être dérangé. Oui.
Pour ne pas être dérangé par qui?
Voilà, par les chauffeurs de taxi, certains passants, certains vendeurs dans les boutiques. Oui, et souvent, quand je ne porte pas la voile, ils me prennent pour une étrangère. Et quelquefois, ils disent, vous êtes chrétienne, comme je n'évite pas, parce que je n'ai jamais considéré que je me réduis à ma confession, je dis, non, je suis irakienne. Alors, vous êtes communiste. Pour eux, une femme non voilée, elle doit être étrangère ou chrétienne ou communiste.
Quand vous avez filmé à Abbas Fadl, oui.
Alors juste, Enam, je suis heureux de la retrouver ici. C'est une amie de 30 ans.
Ah oui.
Et on est des survivants. On est venus, on fait partie d'une génération qui est venue en France pour étudier avec des rêves de culture, pour produire, elle pour écrire, moi pour faire des films. On était très nombreux et on est presque des survivants, etc. On arrive ici avec des œuvres, avec un livre, moi avec un film. Mais on a beaucoup d'amis qui sont peut-être aussi capables que nous, mais que la vie a écrasé, enfin la vie ici, de l'exil, parce que c'est pas facile de vivre en exil. Et elle et moi, en partant d'une génération, on se définissait pas par notre religion. C'est ce qu'elle vient de dire. Moi, mon père est sunnite, ma mère est chiite. Je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, je ne savais pas la différence. Et la première fois qu'on m'a posé la question si j'étais chiite ou sunnite, c'est ici, en France, en Irak, quand ça ne se posait pas. Et dans mon film, j'ai une sœur de Bagdad, elle est sunnite, et elle est chiite, et la sœur de Hit, elle est sunnite. Et on voit leurs enfants jouer ensemble le jeu de la baguette cachée, on ne voit pas de différence. Donc ça, c'est l'Irak où nous avons vu l'Irak arc-en-ciel. Il n'y avait pas de différence entre chiites, sunnites, musulmans, chrétiens. Moi, j'ai un ami, et on a un ami commun, énormément, un chrétien qui jure par les imams chiites, par exemple. Ça nous fait rigoler. Il s'appelle George, il jure par les imams chiites. Donc c'était ça l'Irak qu'on a perdu. Enfin, je ne sais pas si on va le retrouver, mais l'invasion américaine a, parmi les conséquences la plus néfaste de l'invasion américaine, c'est le confessionnalisme.
Il y a, oui, justement, un article.
Nous a renvoyé chacun à notre confession, même si on ne s'y reconnaît pas.
Il y a un article de Peter Harling qui a apparu dans le monde diplomatique il y a 2 ans sur les 10 ans après, quoi, que devient l'Irak, et qui dit justement, étonnamment, l'un des héritages du passage des Américains, c'est le fait que les Irakiens restent en partie, dit-il, prisonniers d'une image de même façonnés aux États-Unis, que Absolument. Les Américains ont laissé derrière eux. Les identités qui s'affichent le plus ostensiblement sont souvent caricaturales, et quasiment tous les quartiers de Bagdad aujourd'hui, donc on est en 2013, c'est très récent, arborent une abondance de marqueurs identitaires qui annoncent sans ambiguïté possible leur couleur communautaire désormais homogène. Cette confessionnalisation, ça date juste, du passage.
Très juste.
Ouais. Abbas Fadel.
Mais est-ce que vous êtes sûr que ce sont les États-Unis, l'intervention américaine qui a occasionné cela, ou est-ce que c'est pas aussi une question d'époque, de fracturation, comme on le voit un
Non,
peu
parce que je viens de vous dire, mon père et ma mère sont des gens de peuple, sont même pas oui. à l'école. Et mon père est sunnite, ma mère est chiite, se sont mariés.
Je comprends ce que vous dites. Je ne remets pas en cause ce que vous dites, mais simplement sur la cause. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'intervention américaine, et de quelle façon, qui a provoqué, selon vous, ce...
C'est l'intervention américaine, parce que les Américains sont arrivés avec cette vision confessionnelle. Se disaient les Irakiens, c'est des chiites, des sunnites, des arabes, du kurde. Donc on va partager le pouvoir entre clans. Donc les premières, moi j'étais content de voter pour la première fois après la chute de Saddam. Donc on a voté, mais qu'est-ce qu'on nous a proposé comme parti? Non pas de parti de gauche ou de droite, de parti chiite, aux sunnites, aux kurdes, aux turcomènes, aux chrétiens. Et moi je me reconnais dans aucune de ces catégories. Je suis irakien. Je voulais voter pour à droite, à gauche, mais pas pour une parti chiite, parce que en plus je suis quoi? Je suis chiite. Moi je suis laïque, comme un homme aussi je crois. Donc pourquoi nous force chacun à voter pour une parti? Et le pouvoir aussi est livré maintenant à des partis. Chaque ministère par exemple appartient à un clan, c'est-à-dire un parti. Et se dispute tout sur les ministères riches, où il y a des contrats, donc des commissions, alors que le ministère de la culture n'a pas de budget, n'a pas d'argent. Ce qui fait qu'il n'y a plus de cinéma irakien, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus d'art en Irak.
Madame Kachachi.
Oui, parce que les Américains, quand ils sont venus, ils ont imposé un conseil de gouvernement qui était divisé entre les Kurdes et les chiites et les sunnites. Et il y avait, je crois, un chrétien aussi. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Tous les grandes fonctions, tous les ambassades, toutes les administrations, il y a des quotas. Pour les chiites, les sunnites, même que vous gagnez, vous avez un bourse d'études, il y a des quotas. Il y a certains bourses pour les chrétiens, tels pour les chiites, tels pour les sunnites, tels pour les kurdes. C'est les Américains qui ont imposé. Pour moi, la démocratie américaine, c'est tellement ambigu. Je comprends pas. Les premières victimes étaient les minorités, les femmes et les intellectuels. Et moi, je suis les trois.
La société civile.
Je suis les trois en même temps. Mais c'est pas possible.
Mais ça, c'est ce qui fait partie aussi d'une très forte incompréhension et d'un sentiment d'injustice très profond qu'on voit, surtout dans la deuxième partie, bien entendu, de votre film, Abbas Fadel. Quelqu'un dit, nous étions les victimes du régime et on nous a adressé un tapis de bombe. C'est une incompréhension totale de ce qui leur arrive.
Oui, oui. Et la situation n'a fait que s'aggraver. Parce que moi, mon film se termine en juillet 2003. Et on pouvait imaginer que dans les semaines et les mois à venir, la situation allait s'améliorer, c'est-à-dire la violence cessait, un vrai gouvernement, une vraie démocratie. Or, maintenant, on sait, il y a eu Daesh, le pays carrément n'existait plus. Maintenant, c'est divisé en trois parties. Moi, j'ai filmé beaucoup dans la ville de Hit, par exemple. Et la ville de Hit, elle est sous le contrôle de Daesh depuis un an. Et donc, l'une de mes sœurs et ses enfants sont otages de Daesh. Là, vous parlez de Ramadi. Ramadi, c'est Hit et proche de Ramadi.
Vous avez des nouvelles?
Oui, oui. Alors, ma sœur a réussi, là, il y a trois semaines, à quitter la ville. Ça fait un an qu'elle essaye. Alors, elle est médecin. Elle est obligée, comme tous les Irakiens pris en otage dans les villes dirigées par Daesh, elle est obligée de travailler, mais sans être payée, parce qu'elle dépend du gouvernement. Donc Daesh paye les militants, enfin les combattants, les paye bien. Mais sinon, les civils sont obligés d'aller au travail, le médecin est obligé d'aller à l'hôpital, mais il n'est pas payé. Et donc ma sœur a réussi enfin à les convaincre qu'elle a le droit à la retraite. Il faut qu'elle aille au ministère, à Bagdad, pour réclamer son droit à la retraite. L'ONUSF sortir après qu'elle ait payé beaucoup d'argent, et surtout son fils qui est resté avec sa femme, ses enfants, il a signé un papier dans lequel il s'engage à faire revenir sa mère. Donc toutes les populations, dont civils, Mossoul, Ramadi, dont vous parlez, Hit, sont otages de Daesh. Daesh ne faut pas les laisser partir. Pourquoi? Pour qu'on ne les bombarde pas. Parce que sans les civils, les Américains, l'armée américaine pourrait bombarder plus librement.
اللهم صلي وسلم وبارك رحم الله على محمد وآل محمد السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا الحسن والحسين أبا الحسنين نور الأرض واسمه سلام الله على الكرار أبا الحسنين
Thomas Fadel, on entend là un extrait de Homeland, Irak, année zéro, avec cet homme qui chante dans la rue une prière, c'est une sorte de louange à Dieu. Et puis les gens s'attroupent autour de lui, ils le regardent un peu bizarrement.
Non, enfin, c'est un mendiant en fait. C'est sa manière de mendier, donc le psalmodie des chansons religieuses. À la gloire des imams chiites, et puis dans le souk, il y a, moi, j'ai beaucoup filmé des visages et des regards caméra, c'est aussi pour montrer la variété de la population irakienne. Un Irakien reconnaîtrait, il dira, celui-ci est kurde, celui-ci de la campagne, celui-ci est un citadin. Il y a une vraie richesse en Irak où, avec l'arrivée de Daesh, on essaie de réduire, parce qu'on a chassé des populations chrétiennes, yazidis, etc. On veut faire un Irak, enfin, du côté de Daesh, un Irak pur, sunnite, alors que mon pays, ma ville, mes quartiers, c'était mixte. Enfin, dans mes amis d'enfance, les étudiants qui étaient avec moi, il y avait de toutes les confessions, de toutes les nationalités, de différentes manières de s'habiller, de se coiffer. Enfin, c'était beau et c'était riche.
Vous disiez tout à l'heure que la situation s'était aggravée globalement. Depuis presque 15 ans maintenant, vous diriez que les Irakiens vivent mieux ou moins bien que sous Saddam Hussein, ou c'est impossible à répondre comme ça?
Non, c'est impossible. On me pose cette question parce que là, ça fait un an que je voyage dans les festivals et je présente les films. Des fois, on me demande qu'est-ce qui est le mieux, Saddam ou le maintenant. C'est comme si vous demandiez aux Irakiens de choisir entre la peste et le choléra.
Est-ce qu'on ça, on le sent dans le film. Hein,
voilà. Est-ce que les Irakiens n'ont pas le droit à autre chose que la dictature,
le chaos? En vous entendant, quand même, on a l'impression que c'était mieux avant, malgré tout.
Alors, les gens qui, la jeunesse, il y a, par exemple dans mon film, il y a quelqu'un qui dit sur Saddam, on pouvait sortir jusqu'à 3h du matin tranquillement. C'est vrai.
Et plus de sécurité, ça c'est
ressenti. Sous Saddam, tant qu'on ne se mêlait pas de politique, tant qu'on ne critiquait pas le régime, on était tranquille.
Et il n'y avait pas cette confessionnalisation?
Il n'y avait pas du tout. Non, il n'y avait pas. Parce que le gouvernement lui-même, le parti pas, c'est un parti laïque. Enfin, c'était Saddam, il était laïque, mais son ministre des Affaires étrangères était chrétien, son ministre de l'Information était chiite, donc il n'y avait pas cette confessionnalisation.
Alors, aujourd'hui, on a retrouvé la liberté au moins.
La liberté de parler aujourd'hui. Alors la seule chose positive qui est arrivée avec l'invasion américaine, c'est la liberté de parler, de critiquer. Mais bon, vous pouvez critiquer, mais vous risquez de mourir d'une balle perdue en sortant de chez vous, en allant au travail, en allant à l'école. L'électricité ne marche toujours pas pour un pays très riche. Alors, où vont les revenus pétroliers? Aujourd'hui, l'État irakien est en état de faillite, mais vraiment concrètement, c'est-à-dire qu'il n'a plus le moyen de payer ses
fonctionnaires.
Et alors, je ne sais pas pour l'armée. Imaginez que l'État n'arrive plus à payer l'armée. C'est explique peut-être aussi pourquoi on tarde tant à vaincre Daesh. Finalement, ça, Daesh, c'est quoi? C'est quelques dizaines de milliers de combattants. Un État, quand même, soutenu par les États-Unis, la première puissance du monde, doit arriver à bout de cette bande d'armée. Et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que aussi, l'État s'est corrompu, en fait. La corruption est arrivée aussi. C'est-à-dire. Les Irakiens, souvent, disent, on a remplacé un Saddam par 200 Saddam. C'est ce que disent les Irakiens.
Même Kachachi.
Les Irakiens, maintenant, ils ont la liberté d'insulter, de dire des gros mots, parce qu'ils ont marre de ce qui se passe depuis 13, 14 ans maintenant. Et dans mon premier roman, ils m'ont dit, vous utilisez beaucoup des gros mots. Ce n'est pas moi, ce sont les personnages de romans qui parlent, parce que maintenant, en fin de compte, un Irakien, quand il ouvre la bouche, il ne va pas faire une chanson d'amour. Il va vraiment, il est furieux, il a besoin pas d'insulter, mais de lire un bouquin, de trouver un travail, de regarder une lampe qui marche. Les premiers réfugiés qui sont venus ici après la guerre de la deuxième guerre de Golfe, leur seule préoccupation était de regarder les lampes qui marchent nuit et jour. Ils regardent le plafond mais ça marche tout le temps? Je dis oui. Mais tout le temps? Oui, tout le temps. Tu peux avoir l'électricité à n'importe quel moment. Pour eux, c'était une sorte de rêve.
Oui, imaginez. Ça, c'est un continuum entre la première partie et la deuxième partie du film. Donc, avant et après l'invasion, il y a des coupures d'électricité en permanence. Oui. Autre chose aussi qui manque, c'est l'eau, c'est l'essence. Donc, effectivement, on voit beaucoup à Abbas Fadel, dans votre film, une très forte colère, un ressentiment. Parce qu'en fait, ils disent, c'est vrai qu'ils nous ont libérés de Saddam, mais ils occupent notre pays. Il y a le ressentiment face à une armée d'occupation. Et puis, l'incompréhension à nouveau. nouveau devant moins de sécurité. Ils pensaient réellement, les Irakiens, que les Américains apporteraient de la sécurité en plus de la libération de la parole et de la démocratie. Et finalement, il y a comme une déception. On ressent comme une déception. Je me dis, mais c'est impossible. On vit moins en sécurité maintenant qu'avant.
Oui, alors moi, j'étais là à 2-3 semaines après la chute de Bagdad et je suis resté jusqu'au juillet.
Et on parle de 2003, là, oui.
Voilà, exactement.
On parle de 2003.
Donc j'ai vu l'évolution de l'état d'esprit des Irakiens. Au tout début, ils étaient contents de la chute de Saddam. Il y avait même des scènes de fraternisation entre la jeunesse irakienne et la jeunesse américaine. Parce qu'un soldat américain, il a le même âge que, par exemple, les anciens, c'est les étudiants de la faculté de technologie qui se font photographier avec les soldats américains. Ils ont le même âge, ils ont les mêmes préoccupations. Mais petit à petit, il y a les bavures qui ont commencé à se multiplier. Il y a surtout la dissolution de l'armée irakienne. Ça renvoyait des centaines de milliers d'hommes qui savent manier les armes au chômage. Et ces hommes-là, d'abord, ils étaient en rien responsables du régime de Saddam. En quoi le soldat irakien, l'officier, est responsable de la dictature? Enfin, on pouvait écarter Saddam, le ministre de la Défense, le gros généraux, mais il fallait laisser l'armée. Comment vous pouvez, vous, en tant que puissance étrangère, instaurer la loi et l'ordre dans un pays si vous commencez par dissoudre l'armée? Et donc, ces gens, les soldats et les officiers réduits au chômage, beaucoup se sont vengés, sont portés les armes contre les Américains. Et après, aujourd'hui, Daesh, les leaders, enfin, ceux qui dirigent militairement Daesh, c'est des anciens officiels de l'armée de Saddam. Donc ça, c'est l'évolution naturelle. On le sent déjà dans la deuxième partie de mon film, le ressentiment. C'est-à-dire quelqu'un à qui on détruit la maison, sans l'indemniser, il est obligé de vivre dans le jardin avec sa famille. Il dit, je jure, si je rencontre un Américain, je vais le tuer. On voit une dame aussi dont un simple Américain a tué son fils. Elle dit, si j'avais une arme, j'irais les tuer. Alors peut-être qu'elle ne le ferait pas, mais beaucoup l'ont fait après.
Est-ce qu'il y a une perspective que l'Irak, à un moment donné, revienne, se reconstitue? Les Kurdes ont quand même pris plus ou moins leur indépendance. Les chiites contrôlés par l'Iran, et puis les sunnites qui essayent de conserver aussi malgré tout une place, que ce soit avec Daesh ou pas. Est-ce que vraiment cette perspective de réunification de l'Irak est encore envisageable selon vous?
Abbas Fadel.
Alors, à court et à moyen terme, je suis très pessimiste, parce qu'en fait, le confessionnalisme, elle est institutionnalisée. Ça faudra que les parlementaires qui sont arrivés avec les partis qui sont arrivés dans les valises des Américains, qu'eux-mêmes renient ce qu'ils ont installé en Irak. Un régime qui leur profite. La situation actuelle, le chaos actuel, elle est néfaste pour la population, mais sinon les partis qui gouvernent s'enrichissent. Chaque jour en Irak, il y a un scandale. C'est-à-dire, dès qu'un ministre est écarté du pouvoir, il va s'installer en Europe avec, non pas des millions de dollars, mais des milliards de dollars. Et c'est pour ça ce qui fait que l'électricité ne marche pas, l'eau ne marche pas, il n'y a pas de travail, mais sinon il y a d'autres qui s'enrichissent. Maintenant, on entend des histoires sur un ex-ministre irakien qui achète la maison la plus chère en Angleterre, alors qu'il était avant, il n'avait rien. Et donc, à court et à moyen terme, je suis très pessimiste, mais ce qui me rend un tout petit peu quand même optimiste, c'est les manifestations. La jeunesse irakienne qui en a marre des partis chiites, des sunnites, etc. Elle ne se reconnaît plus dans ce slogan-là. Et ils manifestent chaque vendredi à Bagdad. Il y a une place qui s'appelle Al-Tahrir, comme un peu partout.
Voilà. Oui,
donc, alors, ils sont malheureusement, ils ont commencé quelques milliers, après quelques centaines, maintenant quelques dizaines, parce que c'est la lassitude. Et puis, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de parti. Le problème en Irak, c'est comme le printemps arabe. Il y a de vraies raisons chez la jeunesse de se révolter, de renverser le régime. Mais même quand ils arrivent à le renverser, ils ne peuvent pas le remplacer. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas en pratique politique, ils ne sont pas de parti politique. Alors c'est un autre parti, aussi dictatorial ou aussi réactionnaire, qui sont pas de pouvoir. Alors la jeunesse se manifeste à Bagdad, elle est tabassée par la police. J'ai des amis aussi très jeunes, notamment des réalisateurs qui y participent, qui postent sur Facebook des images, des vidéos. Bon, mais maintenant, je sais, moi, je suis en contact avec l'Irak, avec ma famille, avec d'autres. Je sais que tout le monde en a marre. Enfin, personne ne croit dans les partis qui gouvernent, qu'ils soient chiites, sunnites, ou chrétiens ou kurdes. Mais le problème, c'est qu'on ne leur propose rien d'autre. Aux prochaines élections, on devra choisir entre ces partis-là. Donc, il faudra une révolution qui renverse tous ces partis qui les chassent. Mais qui et comment ça, je ne sais pas.
Inem Kachachi.
Oui, avant de voir le film de Abbas, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire avec un film documentaire de 5h30? Qu'est-ce qu'il a fait cet ami, ancien ami? Il a mis une caméra au coin du salon de sa famille et l'a laissé filmer des heures et des heures. Mais en fin de compte, en voyant ce film, on trouve toutes ces questions sur l'avenir de l'Irak. C'est dans le film. Il y a une séquence où, parce que je suis retournée à Bagdad, la même période que la retourne, juste après la chute du régime, pour voir avec mes propres yeux comment un soldat américain peut piétonner ma ville natale. Et il avait tellement chaud, même au mois d'avril, c'était tellement chaud. Ces enfants dans le film, qui l'un arrose l'autre avec de l'eau dans le jardin pour essayer de trouver le souffle un peu. J'ai fait la même chose avec ma mère, qui était une dame très très âgée. Et il n'y a pas d'électricité. Quand il y a de l'eau, c'est brûlant dans le robinet. Il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas boire de l'eau fraîche. C'est de l'eau bouillon et j'étais obligée de l'arroser. Elle dort dans son lit et moi j'apporte des tasses de l'eau et je l'arrose. Et elle fait la même chose quand je dors un peu. Elle m'arrose en train de... On était vraiment des zombies. Des zombies, des gens arrosés, on a le sueur partout, et elle est décédée peu après parce qu'il y avait des nourrissons, des vieillards qui meurent. Pas parce qu'il était malade, parce qu'il n'arrive pas à supporter la chaleur sans électricité.
Abbas Fadel, il y a un instant, Inam Kachachi a dit que c'était un film dans lequel on voyait poindre toutes ces questions sur l'Irak d'il y a 10 ans et donc l'Irak d'aujourd'hui. C'est aussi un très grand film de cinéma. Vous avez été formé à Paris par Éric Rohmer, par Jean Rouge, par Serge Danet et vous avez choisi de mettre comme titre, un titre sans doute référence à Heimat, cette grande saga allemande, Homeland. C'est Heimat avec un sous-titre qui est sans doute aussi une référence à Roberto Rossellini, Allemagne à zéro. C'est un grand film de cinéma que vous avez construit et pensé comme tel et qui repose sur aussi un drame personnel. On laisse les spectateurs découvrir de quoi il s'agit. Ce n'est pas forcément la peine d'en parler. Aujourd'hui, on va se quitter en musique. Vous avez choisi, Abbas Fadel, un peu comme dans le livre d'Inam Kachachi tout à l'heure, le Oud de Mounid Bachir. On l'écoute. On n'entend pas dans votre film ce Oud de Mounid Bachir, mais on voit un personnage quand même dont j'aimerais juste que vous nous disiez un mot, Abbas Fadel, qui est le Robert De Niro irakien, qui est Sami Kaftan, avec qui vous avez visité les studios et le musée du cinéma complètement détruit à Bagdad.
Oui, alors Sami Kaftan, c'est une superstar en Irak. C'est une star depuis les années 50. C'est-à-dire, elle est quasiment dans 90% des pièces de théâtre, des films et des séries télé. Donc, il est vraiment peut-être même plus connu que Depardieu, De Niro dans leur pays. Et il m'a beaucoup aidé. Alors, d'abord, c'est un ami. Il faisait partie du personnage que j'ai intégré au film. Mais il m'a beaucoup aidé avant et après. C'est-à-dire, avant, c'est quand je tournais avec lui dans la rue, par exemple, la séquence de souk, le fait qu'il soit avec moi, ça m'a couvert parce que les gens, y compris les gens de la sécurité, quand ils me voyaient avec lui, ils pensaient que je faisais un documentaire sur lui pour la télévision nationale. Donc j'ai pu tourner comme ça d'or sous sa dame. Et après la guerre, donc il m'a amené dans l'office du cinéma. C'est un bâtiment qui se trouve en face du ministère de l'Information qui regroupe toutes les archives audiovisuelles de l'Irak, c'est-à-dire les archives de cinéma et de la télévision. Et malheureusement, ces archives ont été détruites. Enfin, parce qu'on a parlé beaucoup de pillage du musée national de l'Irak, mais on n'a pas parlé des archives audiovisuelles. C'est des pierres, sont entrées dans l'immeuble, elles ont emporté ce qui pourrait leur servir, les ordinateurs, les chaises, elles ont brûlé le reste. En disant quoi, que finalement ces archives, c'est de la propagande pro-régime, sans savoir que ça a quand même une valeur historique. C'est-à-dire, même si c'est des discours Saddam, des discussions sur Saddam, c'était important, il fallait le garder.
Mais grâce à vous, quand même, nous avons aussi un film qui a une valeur historique. Homeland, Irak, année zéro, un film qui sort dans de nombreuses salles demain, 5h30, il faut absolument le voir. C'est un film qui marque d'une pierre blanche l'histoire du cinéma et qui documente d'une façon inédite l'histoire du pays et la situation en Irak, la famille, le cinéma, la société, la politique, les enfants. Il est question de tout dans ce film. Merci beaucoup, Abbas Adel, d'être venu. Merci beaucoup, Inam Kachachi, de nous avoir accompagnés également aujourd'hui. La grande table se termine. Toute l'équipe, je la remercie, comme chaque jour d'ailleurs. À la réalisation, Philippe Baudouin, et à la prise de son, aujourd'hui, c'était Jacques Hubert.